Les Yankees de New York ont pris possession du lanceur, le meilleur lanceur du côté des Blue Jays de Toronto, J.A. Happ. On en parle avec Alex Agostino qui est avec nous. Salut Alex!
Salut Jérémy!
Alex, écoute, je pense que tout le monde s'attendait à voir Happ changer d'adresse, mais là c'est fait du côté des Yankees. En plus, on a été chercher Zach Britton. Disons que le personnel de lanceur, on est bien garni du côté des Yankees de New York.
Disons, si on veut commencer avec Britton, les lanceurs partant du côté des Yankees, s'ils lancent 5 manches, sont en voiture parce que à part Britton, t'as Chapman, t'as Betances, t'as Robertson, t'as Warren, t'as beaucoup de bons bras qui peuvent terminer les 4 dernières manches. Là, l'acquisition de J. Happ, c'est simple. Hein? Les Red Sox avaient acquis Nathan Eovaldé, un vétéran qui a déjà eu 2 opérations Tommy John, mais qui lance tout près de 100 000 à l'heure et qui a déjà fait partie des courses dans le baseball majeur. Les Yankees vont chercher Happ. Des fois, les équipes, oui, ils font pour s'améliorer en premier. Des fois, c'est pour contrer les gestes que les autres équipes avec qui vont se battre jusqu'à la fin de l'année. Et Happ, lui, qui connaît peut-être pas le dernier mois le plus fulgurant de sa carrière, mais a des bonnes statistiques contre les Red Sox de Boston. Et ça pèse dans la balance, dans l'acquisition des Yankees en J.A. Happ. Les Blue Jays, je ne veux pas dire qu'ils n'avaient pas le choix. Ils regardent comment la division se dessine. Ils n'ont aucune chance ou presque de se rendre dans les séries cette année. Happ devient agent libre à la fin de la saison. On savait qu'il y avait de l'intérêt sur Happ même durant la saison morte, mais les Blue Jays ont gardé Happ avec l'espérance que les Blue Jays auraient été peut-être dans une course en début de saison. Ça n'a pas été le cas. Puis il n'y a rien qui empêche J. Happ, à la fin de la saison, de re-signer à Toronto s'il aime tellement ça, parce qu'il a parlé avec beaucoup de fierté et de cœur de son passage à Toronto et qu'il adore la ville aussi.
Dis-moi, Alex Agostino, est-ce que Marcus Stroman aussi pourrait être sur le marché?
Je pense que tous les joueurs sont sur le marché, mais les Blue Jays qui visent l'avenir avec en sachant qu'ils ont de très bons jeunes joueurs dans les filiales qui s'en viennent dans une année ou deux au maximum, est-ce que Stroman fait partie avec Aaron Sanchez du futur ou le retour peut être tellement impressionnant, tellement fort qu'on va le laisser aller. Moi, personnellement, je pense qu'il va demeurer un Blue Jay parce que, oui, c'est un lanceur qui a le potentiel d'être peut-être un numéro 2, mais il n'a pas encore prouvé qu'il y ait la constance pour le faire. C'est un gars électrisant, c'est un gars que la foule aime, c'est un gars des fois qui tape ses nerfs de ses coéquipiers. Tu as pensé à un ancien joueur du Canadien de Montréal, mais c'est des gars que les gens achètent des billets pour aller les voir jouer. Moi, c'est des types de gars que si j'étais dans cette équipe-là, je voudrais l'avoir de mon côté. Mais les Blue Jays doivent garder toutes les avenues ouvertes, Jérémy, parce que 2018, c'est terminé. On prépare 2019, on regarde ce qui se passe dans les mineurs, on va chercher des pièces, comme qu'ils ont fait avec l'acquisition, avec l'échange de Happ, sans oublier l'échange de Ho, le releveur. Tu vas chercher 4-5 pièces que tu peux voir les prochains mois dans les ligues mineures. Et certains qui peuvent venir dans les majeures, comme Brandon Drury, le retour, c'est peut-être un joueur qui va être dans le futur un super utilité, mais tu veux le voir dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il peut t'amener. Et faut pas oublier que les deux jeunes joueurs qui sont allés chercher du côté aussi des Rockies du Colorado sont des gars qui peuvent t'amener de la profondeur dans ton organisation. Si un des deux te ramène de quoi au niveau des majeurs, c'est un échange gagnant pour l'équipe.
Alex, je suis pas un enquêteur de la police, mais d'après moi, tu es sur le bord d'un terrain de baseball, hein?
C'est sûr et certain. Je suis à Lowell, Massachusetts, en train d'épier les filiales des Red Sox de Boston. On doit finir nos rapports pro avant le 31 juillet, parce que même si on n'échange potentiellement pas avec les Red Sox, on doit voir tous les joueurs, si possible. On a un département professionnel, mais eux sont beaucoup plus souvent au niveau 3A, majeur, 2A. Et nous autres, les gars amateurs, on nous donne l'opportunité d'aller voir un peu ce qu'ils jouent dans les ligues mineures, parce que ça nous donne une belle façon de comparer lorsqu'on est au repêchage, c'est ça que les joueurs de collège, les joueurs d'école secondaire. Une belle soirée à 30 minutes de Boston. Un beau petit stade rempli en train de voir les jeunes des Cards contre les jeunes des Red Sox.
Alex, juste pour terminer sur les Blue Jays, est-ce que tu penses que Russell Martin, lui, pourrait changer d'adresse?
C'est difficile à cause du salaire. Hein? Tulowitzki, Russell, Josh Donaldson, c'est quoi la valeur de retour? Peut-être que Russell ne connaît pas la meilleure saison cette année. On fait attention de la façon qu'on l'utilise. Il y a peut-être encore une certaine valeur au niveau d'un mentor pour les jeunes joueurs qui est là. Puis, d'après moi, c'est qui dans les équipes qui sont présentement dans la course au championnat ont besoin d'un receveur. Il y en avait une équipe, c'était les Astros. Ils sont allés chercher un joueur, Martin Maldonado, du côté des Angels. Il va chercher un receveur qui est reconnu pour sa défensive. Il peut frapper, mais il s'en va là pour stabiliser avant que Brian McCann revienne de sa blessure. Alors, tu as une équipe comme les Astros qui ont gagné la Série mondiale. Je ne veux pas dire que leur receveur, c'est un maillon faible, mais c'est une position qu'ils voulaient améliorer. Ils l'ont fait. Puis des équipes comme les Astros, les Dodgers, ces équipes-là qui s'en vont vers les séries, pas tout le monde qui peut aller chercher un contrat de 20 millions qui finit cette année, mais qui inclut l'an prochain, à part que les Blue Jays achèteraient ou prendraient la majorité au niveau d'argent. D'après moi, Russell finit l'an prochain, revient en force avec les Blue Jays et tente d'aider les jeunes joueurs qui s'en viennent à cause de son expérience et de la façon qu'il est respecté dans le vestiaire.
En terminant, Alex Agostino, assurément, tu vas regarder un œil ce week-end du côté de Cooperstown. C'est le week-end de Vlad. Comment tu imagines ce week-end-là?
Ben, si je me mets dans la peau de Vladimir, c'est la concrétisation d'une carrière incroyable. Seulement le deuxième ou troisième joueur de la République dominicaine qui s'en va au Temple d'Aranami, beaucoup de partisans de Montréal. Toujours une fin de semaine fébrile. Moi, j'aime lire et j'aime regarder par la suite les speeches, les paroles des joueurs, comment ils sont touchés, les différents. Parce que cette année, il y a Vlad, il y a Chipper Jones, il y a Trevor Hoffman, il y a Jim Thome. Ces quatre-là, quelle brochette! Sans compter les deux vétérans, Jack Morris et Alan Trammell. Quelle équipe de rêve qu'on va avoir là. Toujours une fin de semaine, c'est un petit peu l'amour, la fête du baseball. Et là, tu vois les familles qui sont présentes, les partisans qui vont d'année en année visiter cette merveilleuse petite ville-là. Ceux qui sont jamais allés, je le suggère fortement, c'est à 4h, 4h et quart de Montréal seulement. Mais pour nous, les partisans des expos, les anciens expos, moi qui ai eu la chance de travailler pour les expos lorsque Vladimir était là, on a eu l'opportunité de voir un magicien, de voir un des meilleurs frappeurs de mauvaise balle de l'histoire du baseball. Et il le mérite tellement. Puis quand je dis ça, c'est qu'il s'est lancé sur des balles loin hors de la zone de prise, puis il frappait solidement. Il y en a qui s'est lancé sur ces balles-là, mais ne faisait pas contact. Vladimir faisait contact constamment, puis il était électrisant, puis il a pleinement mérité cet honneur qu'il va avoir en lieu en fin de semaine à Cooperstown.
Alex Agostino, toujours un plaisir. Merci d'avoir été avec nous.
Salut, Jérémy.
Merci énormément. Ben, direction Cooperstown, justement. Il est journaliste du côté de la presse canadienne. Frédéric Daigle est sur place. Salut, Frédéric.
Bonsoir, Jérémy.
Comment ça se passe depuis ton arrivée à Cooperstown?
Ben, c'est toujours magique. Hein? C'est toujours. Moi, je me sens toujours comme un enfant dans un magasin de bonbons quand tu arrives ici. Le village au complet respire le baseball. Là, il commence à avoir de plus en plus de monde sur la rue principale ici à Cooperstown. Les gens se préparent déjà. Pour certains, ils ont déjà installé leur chaise pour la parade de demain. Je ne sais pas s'ils vont coucher ici toute la nuit pour être aux premières loges, mais en tout cas, les gens commencent déjà à s'installer. Ça va avoir lieu à 18h demain soir. Ça fait que les gens sont prêts pour un long 24h. Et puis, on a commencé à installer les petits pavillons, les petites tentes aussi, parce que toute la rue principale, chacun des commerces aura un membre du Temple de la Renommée qui va être invité à venir signer des autographes là. Évidemment, les gens doivent payer pour ça, mais chacun des commerces ici va avoir son membre du Temple de la Renommée. Puis évidemment, tu as Pete Rose qui va s'installer quelque part pour signer lui aussi, même s'il n'est pas éligible en raison de son inclusion sur la liste des bannis à vie là, du baseball majeur. Mais ça, tu sais, ça respire le baseball. Chaque partisan de balle, là, Alex le disait, c'est à peu près 4h30 de Montréal. Payez-vous ça une fois dans votre vie. Peut-être pas le week-end de l'intronisation, car c'est un week-end très achalandé. Le prix des hôtels est assez élevé. Mais c'est une visite qui en vaut la peine. Le musée est superbe et puis ça permet de revivre des souvenirs des expos pour les nostalgiques aussi.
Frédéric Daigle de la presse canadienne. Écoute, c'est Vladimir Guerrero, qui va retenir pour nous ici à Montréal l'attention. 9 fois match des étoiles, joueur par excellence. On l'a connu, le gars, pas de gants, qui frappe n'importe quelle balle au bâton. Est-ce qu'il est déjà arrivé? Est-ce qu'on en parle beaucoup du côté de Cooperstown?
Oui, ben absolument. Tous les nouveaux intronisés, là, les 6 nouveaux membres sont en ville depuis, si je ne m'abuse, mardi ou mercredi. Ce soir même, comme par hasard, il y a une microbrasserie, Omegang Brewery, ici à Cooperstown, que j'adore, que je suis allé visiter avec ma conjointe. Et puis, on se préparait à recevoir une petite fête privée en l'honneur de Vladimir Guerrero. Là, il y avait son visage partout sur les murs de la microbrasserie. Il y avait une salle qui avait été réservée pour son groupe. Alors, les gars sont là, ils sont venus voir où leur plaque va être installée. Ils l'avaient vu déjà un peu plus tôt cette année, mais sont revenus voir ça. Puis là, c'est une période, je parlais à Tim Raines et à Jeff Bagwell ce matin, qui, eux, ont été intronisés l'année passée. Il me disait là, aujourd'hui, là, c'est une période de grand stress. D'abord, il y a beaucoup d'activités de prévues. Passe-moi l'expression, barouetté d'une place à l'autre. On a un horaire très serré. Et puis là, on pense à notre discours. On veut pas oublier personne. On veut s'assurer qu'on dit les bonnes choses. Alors, c'est une journée stressante pour les nouveaux membres du Temple de la Renommée.
Frédéric Daigle de la presse canadienne, je veux que tu me parles du village. C'est un tout petit village, pas gros, Cooperstown, là.
Ah, c'est 6 000 habitants que quelqu'un me disait ici. Il va y avoir à peu près 45 000 personnes au cours du week-end. Le comparatif, là, c'est Saint-Tite pendant le Festival Western. Je pense qu'il n'y a pas d'autre façon de comparer la grosseur du village par rapport à l'immensité de l'événement. Alors, c'est niché au cœur des montagnes dans le backcountry, je m'excuse, de la campagne de l'État de New York. C'est bucolique, c'est vraiment un petit village, une grande rue principale, quelques rues transversales. Évidemment, c'est un très vieux village, là. Il y a des maisons plus que centenaires ici, presque bicentenaires même à Cooperstown. Mais on a aussi une partie un peu plus moderne. Le musée a été rénové il n'y a pas très longtemps. Et bon, tu as le Clark Sports Complex où vont avoir lieu les cérémonies dimanche, qui est un immense complexe sportif et culturel qui a été... la famille Clark est très impliquée ici à Cooperstown. C'est elle qui a aidé à mettre sur pied le musée. Et c'est des gens là qui font beaucoup de philanthropie, qui redonnent beaucoup à la communauté ici. Alors, il y a beaucoup de buildings, de bâtisses qui s'appellent Clark, là, dont l'école secondaire et le complexe sportif ici. Alors, c'est vraiment là une ville encore un peu ancrée dans ses traditions, mais qui doit là s'adapter à la réalité, justement, en raison de toute l'attention médiatique qui est portée à cet événement-là. Ben, ils reçoivent un afflux de visiteurs pendant ce week-end-là là, qui est incomparable. Il y a un des commerçants ici sur la rue principale hier qui me disait que pendant ce week-end-là, ils font presque autant que pendant les 51 autres week-ends de l'année en termes de revenus là, avec le commerce.
Évidemment, on le sait, hein, Vladimir n'aura pas la casquette des Expos de Montréal, il aura celle des Angels. Est-ce que tu remarques la présence de certains partisans des Expos quand même?
Il y en a. Je te dirais que demain va être une meilleure journée pour évaluer le nombre de partisans des Expos qui sont ici. Mais je te dirais que si je compare vendredi soir, je vois moins de casquettes et de chemises des Expos que l'an dernier. L'an dernier, évidemment, c'était Tim Raines, hein, tout le monde l'attendait, c'était sa dernière année d'éligibilité. Il y avait eu tout un engouement, tu sais, un build-up, si tu me passes l'expression, qui datait de presque 3 ans. Et puis là, les gens, enfin, c'était comme la récompense ultime. Et puis, juste à temps, dans le fond, pour Tim Raines, qui était pour voir son nom quitter les bulletins de vote. Tandis que Guerrero, ben lui... ça a été un peu plus pragmatique. L'histoire d'amour avec les partisans montréalais, je pense, était aussi forte, mais lui a décidé que, comme le club n'existe plus, qu'il va représenter les Angels. Bon, la rumeur veut que les Angels auraient signé un beau chèque aussi pour Vladimir Guerrero, mais ça fait du sens aussi pour... Les membres du Temple de la Renommée veulent pas nécessairement monnayer leur élection, leur intronisation, mais ils veulent pouvoir participer à des événements et puis il y en aura pas à Montréal des événements pour Vladimir Guerrero au cours des prochaines années, à tout le moins à court ou moyen terme. Alors, tandis qu'avec les Angels, ben, il va être honoré un petit peu plus tard au mois d'août. Et puis, ça va lui permettre là d'être plus dans l'actualité. Là. Il va être plus, ça va faire jaser plus
ouais.
Qu'il soit intronisé comme premier membre des Angels que comme quatrième membre des Expos, par exemple.
Et surtout, c'est que ça laisse ton intronisation plus vivante. Tu sais, ça va rester là. Ah oui. Il y a des gens qui vont être capables de s'associer à ça, étant donné que les Angels sont là.
Exactement. C'est ce que je cherchais. Ça va être plus d'actualité pour lui de représenter les Angels dans ses fonctions de membre du Temple de la Renommée que de représenter les Expos, peut-être.
Frédéric Daigle, en direct de Cooperstown, je te souhaite un excellent week-end. Salut les gens qui ont les casquettes des Expos, malgré le fait que Vladimir ne portera pas cette casquette. Et surtout, je te dis un gros merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Et puis oui, j'y manquerai pas. C'est toujours un week-end super intéressant, même quand on est obligé d'y travailler. Disons que c'est un des beaux week-ends de travail de l'année.
Il y a pire que ça dans la vie, hein?
Pas mal, oui.
Frédéric Daigle de la presse canadienne, merci d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy.
Merci, salut. On s'arrête quelques instants et au retour, il sera à la barre ce soir de Bonsoir les sportifs. Le cousin d'Eugénie Bouchard, Yannick Bouchard, est avec nous.